Les enjeux internationaux, Thierry Garcin, bonjour Thierry.
Et rebonjour Marc.
L'Allemagne aujourd'hui au sommaire des enjeux, avec votre invité François Lévesque, le coût de l'abandon de l'énergie nucléaire.
Voilà, le temps de rappeler qu'évidemment France Culture organise samedi au Grand Amphi de la Sorbonne, et c'est entrée libre samedi de 9h30 à 18h30, donc grande séance consacrée à l'année vue par les sciences, et notre sujet est en partie scientifique. François Lévesque, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
On va tout de suite dire, vous êtes professeur d'économie, effectivement, à Mines Paris Tech. On peut rappeler aussi que la documentation française vient de sortir dans la collection, d'ailleurs toujours très utile, documentation photographique, énergie et minerais, des ressources sous tension. C'est un bilan, une vue synthétique et cavalière très utile. Alors là, on revient à l'Allemagne, François Lévesque. Les socialistes allemands, au début des années 2000, avaient programmé la fin de l'énergie nucléaire. La nouvelle chancelière, Mme Merkel, repoussant ensuite cette échéance. Et puis, bien entendu, la catastrophe de Fukushima a bousculé la situation, a changé la donne de fond en comble. Et 2020 est désormais la date officielle pour l'abolition de l'énergie nucléaire au profit de centrales à gaz et puis de centrales à charbon, lignite, qui précisément est très polluant, et au profit aussi des énergies renouvelables. Alors, le coût de l'abandon de l'énergie nucléaire, c'est un sujet absolument considérable. Il faut rappeler que c'est un sujet non seulement allemand, mais européen d'ailleurs, qui touche beaucoup de pays européens.
Oui, puisque beaucoup de pays européens sont équipés de centrales nucléaires, et donc se pose la question pour ces centrales nucléaires de leur fin de vie. À quel moment les arrêter ? Donc soit les arrêter pour des raisons économiques, parce qu'il faudrait trop investir par rapport aux recettes qui pourraient être obtenues par la vente d'électricité, soit parce que les autorités de sûreté jugent que ces centrales sont devenues insuffisamment sûres.
Alors Fukushima marque une césure quand même, 2011.
Voilà, Fukushima marque une césure parce que par rapport à cette idée de fermer des centrales lorsqu'elles arriveront naturellement, en quelque sorte, à la fin de leur durée de vie d'exploitation, eh bien, Fukushima a conduit certains pays, dont l'Allemagne, à accélérer cette fermeture, c'est-à-dire à fermer très tôt des centrales alors qu'elles n'étaient pas spécialement dangereuses, en tout cas selon les autorités de sûreté, qui sont des autorités de sûreté très, très, très consciencieuses, en tout cas en ce qui concerne l'Allemagne et la France, et ni non plus plus rentables. Donc c'est simple, c'est cette idée que eh bien voilà, on va les fermer maintenant, vite, alors qu'on aurait pu les fermer de façon plus progressive.
C'est d'ailleurs le choix qu'a pris l'Espagne, de les fermer de façon progressive à mesure dans les années 2020.
Voilà, et sans doute aussi la Suisse qui a décidé de ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires et donc de ne pas remplacer les vieilles par des nouvelles, mais en tout cas qui a décidé plutôt de sortir progressivement du nucléaire. Parce que les deux questions sont vraiment déliées. C'est-à-dire qu'un pays peut décider de ne plus faire de nouvelles centrales nucléaires et de fermer progressivement ses centrales nucléaires, ce qui a un intérêt évidemment économique, puisque le kilowattheure nucléaire des vieilles centrales est beaucoup moins cher à produire que le kilowattheure de n'importe quelle autre installation neuve.
On voit que le paysage est très contrasté, parce que l'Italie, qui devait acheter des centrales nucléaires sauf erreur française, un certain nombre, après Fukushima, a annulé tout, et que d'autres pays comme le Royaume-Uni restent nucléaires, comme la France.
Voilà, mais ça, c'est parce que les décideurs politiques, selon les pays, sont plus ou moins sensibles aux chocs entraînés par Fukushima sur leurs opinions publiques, puisque Fukushima, comme d'autres accidents, sont des accidents effroyables, des catastrophes, et donc qui marquent, et sur le moment, sur le coup, la perception et la peur et la perception du risque devient très forte. Donc il y a une espèce de fenêtre de tir, ou en tout cas les politiques, tenant compte de cette émotion en quelque sorte, peuvent prendre des décisions peut-être trop hâtives.
Alors, il y a une chose intéressante, et vous le soulignez d'ailleurs dans votre ouvrage chez Duno, qui était paru l'année dernière, qui s'intitule « Nucléaire on-off », et le sous-titre est éclairant, « Analyse économique d'un pari ». Alors, vous soulignez le fait que souvent, les experts sont évidemment un peu blindés dans leur certitude mathématique ou probabiliste, et que les opinions publiques, souvent, ont tendance à majorer leurs propres inquiétudes.
Oui, mais surtout, je m'oppose à cette idée de choisir un camp. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté une bonne opinion publique qui percevrait les risques, et il faudrait uniquement considérer cette perception et l'émotion, et d'un autre, le camp des experts. Et donc, il faut ni choisir le camp de l'opinion publique émotive, ni celui des experts et de leurs calculs. Il faut combiner les deux. Et bien évidemment, il s'agit à la fois de tenir compte de l'avis d'experts, et donc des calculs et des dizaines de milliers d'années d'ingénieurs qui ont été consacrés à la sûreté, mais tenir compte aussi des observations et de la perception. Et donc, il y a des façons assez compliquées que je n'exposerai pas de combiner à la fois la perception des probabilités et le calcul scientifique des probabilités.
Alors, on va revenir à l'Allemagne et donc aux aspects financiers, parce que c'est quand même très important pour les finances de l'État allemand. D'abord, quelles hypothèses pour essayer de calculer le coût de l'abandon par rapport, évidemment, au coût quotidien du maintien du nucléaire en l'État ?
Alors, c'est une évaluation qui doit tenir compte de l'incertitude, puisque en fait, ce que vous allez perdre en fermant trop tôt une centrale nucléaire, donc de façon prématurée, alors qu'elle marche et qu'elle est relativement sûre, eh bien, vous allez perdre des recettes pendant les 20 prochaines années. Si sa durée d'exploitation normale aurait été de 20 ans supplémentaires, vous allez perdre 20 ans de recettes d'électricité. Et donc, il faut connaître le prix de l'électricité sur les 20 prochaines années. Et donc là, vous avez une première incertitude qui fait qu'il n'y a pas un chiffre unique de ce que sera la perte pour une économie qui décide de fermer prématurément ses centrales nucléaires. Donc ça va dépendre du prix futur de l'électricité, ça va dépendre des dépenses qu'il faut faire aussi sur cette centrale pour continuer à ce qu'elle soit exploitée, de la maintenance, des nouveaux investissements. Et donc là encore, il y a une certaine incertitude. Et donc c'est la différence entre les deux, mais entre des coûts et des bénéfices qui restent cependant incertains. Et donc on obtient des ordres de grandeur, si vous voulez, mais on n'obtiendra pas un chiffre précis et définitif.
Alors, à quelle conclusion, le moins chiffré possible à la radio pour nous, vous êtes arrivé ?
Alors, il y a eu des estimations et plusieurs estimations qui convergent sur un ordre de grandeur de la dizaine de milliards d'euros, autour de 50 milliards d'euros, pour donner un ordre d'idée. Et donc, ce coût, c'est le coût d'une fermeture prématurée, donc dans le cas allemand, avec le dernier réacteur qui cesse d'être exploité en 2022, la différence entre ce scénario-là et le scénario d'exploitation précédent qui prévoyait une fermeture en 2036. Et donc, c'est cette différence entre une sortie progressive et une sortie accélérée qui coûte de l'ordre de 50 milliards d'euros.
50 milliards d'euros. On a fait le même des calculs aussi parallèles, j'ai vu il y a quelque temps, des calculs très avisés évidemment, ce qui concerne l'éventuel abandon total à terme du nucléaire français, mais c'est un autre dossier. En ce qui concerne le nucléaire allemand, le fait que, sauf erreur, je pense que l'électricité d'origine nucléaire en Allemagne est très, très, très réduite par rapport à l'électricité provenance du nucléaire en France. Est-ce que ça joue, ça, le fait que les centrales nucléaires débitent beaucoup d'électricité en France et peu en Allemagne ? Est-ce que dans le calcul, dans le volume,
oui,
dans l'addition finale ?
Voilà, parce que une sortie très rapide du nucléaire vous fait perdre des recettes en termes d'électricité, et ces recettes, c'est à la fois le prix incertain dont je parlais, le prix au cours des 20 prochaines années, multiplié par une quantité de kilowattheures qui serait produite. Et donc, plus vous avez de réacteurs, deux fois plus de réacteurs en France qu'en Allemagne, donc plus vous avez de réacteurs, plus la quantité produite perdue, si vous les fermez trop tôt, est grande.
Alors, le prix d'électricité, on dit que les Allemands vont le payer beaucoup plus cher. C'est important, et d'un point de vue d'ailleurs politique, quand on prend cette décision pour les dirigeants allemands, parce qu'il faut qu'ils préviennent leur population que ça, il va y avoir une facture.
Oui, alors ils payent leur électricité plus cher, mais et notamment du fait des subventions aux énergies renouvelables, en fait, puisque le programme allemand de financer les énergies renouvelables date d'avant Fukushima et la fermeture accélérée des centrales. C'est une orientation politique ferme et presque de longue date. La fermeture des centrales conduit à accélérer ce mouvement, à cette transition énergétique vers les énergies renouvelables. Et comme elles sont plus chères que... elles produisent une électricité plus chère que par d'autres moyens, eh bien, il faut subventionner les énergies renouvelables pour qu'elles se déploient. Et c'est cette subvention qui est payée par le consommateur allemand d'électricité qui renchérit considérablement sa facture.
Oui, on pense évidemment aux énergies du vent, c'est-à-dire éoliennes, qui, semble-t-il, sont assez loin du consommateur, au nord de l'Allemagne.
Et puis,
il faut tirer énormément. J'ai vu des milliers de nouvelles lignes à haute tension.
Voilà, il y a beaucoup d'investissements parce que...
Des milliers de kilomètres, hein, j'entends.
Voilà, parce que les centrales nucléaires sont dans le sud, les ressources éoliennes sont plutôt dans le nord, donc il faut tirer des câbles pour transmettre cette énergie vers les lieux de consommation. Et puis il y a le solaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'anecdote qui montre quand même un côté déraisonnable dans l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables en Allemagne. Vous avez plus de mètres carrés de capture solaire dans le Bade-Wurtemberg que dans l'ensemble des États-Unis aujourd'hui. Et en Allemagne, l'Allemagne, c'est la moitié des mètres carrés de panneaux solaires du monde.
Et puis ce n'est.
Ah, et oui, donc, si vous comparez avec les ressources solaires.
C'est une proportion parlante.
Donc voilà, donc c'est, donc on voit le côté sans doute excessif, en tout cas à mes yeux excessif, de la vitesse avec laquelle l'Allemagne souhaite aller vers la transition et les énergies renouvelables.
Alors pour les énergies renouvelables pour l'Allemagne, est-ce que vous êtes d'accord pour dire aussi que l'Allemagne vise surtout à terme également, non seulement assurer son approvisionnement propre avec des énergies de substitution intramuros, mais aussi être un grand exportateur de toutes ces, de tous ces outils renouvelables, grand exportateur mondial? C'est une vision commerciale.
C'est une vision commerciale, mais c'est vraiment un pari très risqué, hein, parce que les Chinois sont quand même les plus grands producteurs et au moindre coût de panneaux solaires. Sur l'éolien, d'autres pays
que l'Allemagne. Et les exportent d'ailleurs à foison.
Et les exportent. Donc c'est un pari industriel et économique. Il n'est pas sûr que, puisque c'est un pari, que la solution heureuse soit celle qui est espérée.
Alors, juste d'un mot donc de conclusion en ce qui concerne l'énergie nucléaire, ça reste sur une réalité profonde en Europe, au moins dans un certain nombre de pays. Durable, l'énergie nucléaire.
Oui,
qu'on le veuille ou non d'ailleurs, c'est une donnée pérenne. Pérenne au moins pour une grande partie du siècle.
Voilà. Il y a un certain nombre de pays en Europe, et dont la France évidemment, qui ont des flottes qui sont relativement jeunes et donc dont la cessation d'exploitation ne doit pas être prévue avant 20 ans. Et donc il y a du nucléaire durable, et puis durable dans le sens où il va continuer d'être parmi nous en Europe, et puis d'autres pays comme l'Angleterre qui ont décidé de construire de nouveaux réacteurs nucléaires.
Voilà, merci beaucoup. Je rappelle donc, François Lévesque, que vous êtes professeur d'économie à Mines Paris Tech. Et vous avez publié un ouvrage intitulé « Nucléaire on-off, analyse économique d'un pari ». Vous aviez publié donc un bilan assez chiffré et très lisible pour le non-spécialiste dans, c'était La Tribune, hein, je crois, il y a environ 2 mois.
Oui,
on le mettra en bibliographie franceculture.fr, Marc.
Merci Thierry Garcin.